Albertine disparue, chapitre 2. Mademoiselle de Forcheville. Ce n'était pas que je n'aimasse encore Albertine, mais déjà pas de la même façon que les derniers temps. Non, c'était à la façon des temps plus anciens, où tout ce qui se rattachait à elle, lieux et gens, me faisait éprouver une curiosité où il y avait plus de charme que de souffrance. Et en effet, je sentais bien maintenant qu'avant de l'oublier tout à fait, avant d'atteindre à l'indifférence initiale, il me faudrait, comme un voyageur qui revient par la même route au point d'où il est parti, traverser en sens inverse tous les sentiments par lesquels j'avais passé avant d'arriver à mon grand amour. Mais ces fragments, ces moments du passé ne sont pas immobiles. Ils ont gardé la force terrible, l'ignorance heureuse de l'espérance qui s'élançait alors vers un temps devenu aujourd'hui le passé. Mais qu'une hallucination nous fait un instant prendre rétrospectivement pour l'avenir. Je lisais une lettre d'Albertine où elle m'avait annoncé sa visite pour le soir, et j'avais une seconde la joie de l'attendre. Dans ses retours, par la même ligne d'un pays où l'on ne retournera jamais, où l'on reconnaît le nom, l'aspect de toutes les stations par où on a déjà passé à l'aller, il arrive que, tandis qu'on est arrêté à l'une d'elles, en gare, on a un instant l'illusion qu'on repart, mais dans la direction du lieu d'où l'on vient, comme l'on avait fait la première fois. Tout de suite l'illusion cesse, mais une seconde, on s'était senti de nouveau emporté. Telle est la cruauté du souvenir. Parfois, la lecture d'un roman un peu triste me ramenait brusquement en arrière, car certains romans sont comme de grands deuils momentanés, abolissent l'habitude, nous remettent en contact avec la réalité de la vie, mais pour quelques heures seulement, comme un cauchemar, puisque les forces de l'habitude, l'oubli qu'elles produisent, la gaieté qu'elles ramènent par l'impuissance du cerveau à lutter contre elles et à recréer le vrai, l'emporte infiniment sur la suggestion presque hypnotique d'un beau livre, qui, comme toutes les suggestions, a des effets très courts. Et pourtant, s'il ne peut pas, avant de revenir à l'indifférence d'où on était parti, se dispenser de couvrir en sens inverse les distances qu'on avait franchies pour arriver à l'amour, le trajet, la ligne qu'on suit, ne sont pas forcément les mêmes. Ils ont de commun de ne pas être directs, parce que l'oubli, pas plus que l'amour, ne progresse régulièrement. Mais ils n'empruntent pas forcément les mêmes voies. Et dans celle que je suivis au retour, il y eut, au milieu d'un voyage confus, trois arrêts, dont je me souviens à cause de la lumière qu'il y avait autour de moi, alors que j'étais déjà bien près de l'arrivée, étape que je me rappelle particulièrement, sans doute parce que j'y aperçus des choses qui ne faisaient pas partie de mon amour d'Albertine, ou du moins qui ne s'y rattachaient que dans la mesure où ce qui était déjà dans notre âme avant un grand amour s'associe à lui, soit en le nourrissant, soit en le combattant, soit en faisant avec lui, pour notre intelligence qui analyse, contraste d'images. La première de ces étapes commença au début de l'hiver, un beau dimanche de Toussaint où j'étais sortie. Tout en approchant du bois, je me rappelais avec tristesse le retour d'Albertine venant me chercher du Trocadéro, car c'était la même journée, mais sans Albertine. Avec tristesse, et pourtant non sans plaisir tout de même, car la reprise en mineur, sur un ton désolé, du même motif qui avait empli ma journée d'autrefois, l'absence même de ce téléphonage de Françoise, de cette arrivée d'Albertine, qui n'était pas quelque chose de négatif, mais la suppression dans la réalité de ce que je me rappelais et qui donnait à la journée quelque chose de douloureux, en faisait quelque chose de plus beau qu'une journée unie et simple, parce que ce qui n'y était plus, ce qui en avait été arraché, y restait imprimé comme en creux. Au bois, je fredonnais des phrases de la sonate de Vinteuil. Je ne souffrais plus beaucoup de penser qu'Albertine me l'avait jouée, car presque tous mes souvenirs d'elle étaient entrés dans ce second état chimique où il ne cause plus d'anxieuse oppression au cœur, mais de la douceur. Par moments, dans les passages qu'elle jouait le plus souvent, où elle avait l'habitude de faire telle réflexion qui me paraissait alors charmante, de suggérer telle réminiscence, je me disais « pauvre petite ». Mais sans tristesse, en ajoutant seulement au passage musical une valeur de plus, une valeur en quelque sorte historique et de curiosité, comme celle que le tableau de Charles Ier par Van Dyck, déjà si beau par lui-même, acquiert encore du fait qu'il est entré dans les collections nationales par la volonté de Madame du Barry d'impressionner le roi. Quand la petite phrase, avant de disparaître tout à fait, se défit en ces divers éléments, où elle flotta encore un instant éparpillée, ce ne fut pas pour moi, comme pour Swann, une messagère d'Albertine qui disparaissait. Ce n'étaient pas tout à fait les mêmes associations d'idées chez moi que chez Swann que la petite phrase avait éveillée. J'avais été surtout sensible à l'élaboration, aux essais, aux reprises, au devenir d'une phrase qui se faisait durant la sonate comme cet amour s'était fait durant ma vie. Et maintenant, sachant combien chaque jour un élément de plus de mon amour s'en allait, le côté jalousie, puis tel autre, revenant, en somme, peu à peu dans un vague souvenir à la faible amorce du début, c'était mon amour qu'il me semblait, en la petite phrase éparpillée, voir se désagréger devant moi. Comme je suivais les allées séparées d'un sous-bois, tendu d'une gaze chaque jour amincie, le souvenir d'une promenade où Albertine était à côté de moi dans la voiture, où elle était rentrée avec moi, où je sentais qu'elle enveloppait ma vie, flottait maintenant autour de moi, dans la brume incertaine des branches assombries, au milieu desquelles le soleil couchant faisait briller, comme suspendu dans le vide, l'horizontalité clairsemée des feuillages d'or. D'ailleurs, je tressaillais de moment en moment, comme tous ceux pour lesquels une idée fixe donne à toute femme arrêtée au coin d'une allée la ressemblance, l'identité possible avec celle à qui on pense. C'est peut-être elle. On se retourne, la voiture continue à avancer et on ne revient pas en arrière. Ces feuillages, je ne me contentais pas de les voir avec les yeux de la mémoire. Ils m'intéressaient, me touchaient, comme ces pages purement descriptives au milieu desquelles un artiste, pour les rendre plus complètes, introduit une fiction, tout un roman. Et cette nature prenait ainsi le seul charme de mélancolie qui pouvait aller jusqu'à mon cœur. La raison de ce charme me parut être que j'aimais toujours autant Albertine. Tandis que la raison véritable était au contraire que l'oubli continuait à faire en moi des progrès, que le souvenir d'Albertine ne m'était plus cruel. C'est-à-dire, avait changé. Mais nous avons beau voir clair dans nos impressions, comme je crus alors voir clair dans la raison de ma mélancolie, nous ne savons pas remonter jusqu'à leur signification plus éloignée. Comme ces malaises dont le médecin écoute son malade lui raconter l'histoire, et à l'aide desquels il remonte à une cause plus profonde, ignorée du patient. De même, nos impressions, nos idées n'ont qu'une valeur de symptôme. ma jalousie étant tenue à l'écart par l'impression de charme et de douce tristesse que je ressentais, mes sens se réveillaient. Une fois de plus, comme lorsque j'avais cessé de voir Gilberte, l'amour de la femme s'élevait de moi. Débarrassé de toute association exclusive avec une certaine femme déjà aimée, et flottait, comme ces essences qu'ont libérées des destructions antérieures et qui errent en suspens dans l'air printanier, ne demandant qu'à s'unir à une nouvelle créature. Nulle part il ne germe autant de fleurs, s'appelasse-t-elle, ne m'oubliez pas, que dans un cimetière. Je regardais les jeunes filles dont était innombrablement fleuri ce beau jour, comme j'eusse fait jadis de la voiture de Madame de Villeparisis, ou de celle où j'étais, par un même dimanche, venue avec Albertine. Aussitôt, au regard que je venais de poser sur telle ou telle d'entre elles, s'appariait immédiatement le regard curieux, furtif, entreprenant, reflétant d'insaisissables pensées, que leur eût à la dérobée jeté Albertine, et qui, géminant le mien d'une aile mystérieuse, rapide et bleuâtre, faisait passer dans ses allées, jusque-là si naturelles, le frisson d'un inconnu, dont mon propre désir n'eût pas suffi à les renouveler s'il fût demeuré seul, car lui, pour moi, n'avait rien d'étranger. D'ailleurs, à Balbec, quand j'avais désiré connaître Albertine la première fois, n'était-ce pas parce qu'elle m'avait semblé représentative de ces jeunes filles dont la vue m'avait si souvent arrêtée dans les rues, sur les routes, et que pour moi, elles pouvaient résumer leur vie? Et n'était-il pas naturel que maintenant, l'étoile finissante de mon amour, dans lequel elle s'était condensée, se dispersa de nouveau en cette poussière disséminée de nébuleuses? Toutes me semblaient des Albertines, l'image que je portais en moi me la faisant retrouver partout. Et même, au détour d'une allée, l'une d'elles, qui remontait dans une automobile, me la rappela tellement, était si exactement de la même corpulence, que je me demandais un instant si ce n'était pas elle que je venais de voir, si on ne m'avait pas trompé en me faisant le récit de sa mort. Je la revoyais ainsi dans un angle d'allée, peut-être à Balbec, remontant en voiture de la même manière, alors qu'elle avait tant de confiance dans la vie. Et l'acte de cette jeune fille de remonter en automobile, je ne le constatais pas seulement avec mes yeux, comme la superficielle apparence qui se déroule si souvent au cours d'une promenade. Devenu une sorte d'acte durable, il me semblait s'étendre aussi dans le passé, par ce côté qui venait de lui être surajouté et qui s'appuyait si voluptueusement, si tristement contre mon cœur. Mais déjà, la jeune fille avait disparu. Un peu plus loin, je vis un groupe de trois jeunes filles un peu plus âgées, peut-être des jeunes femmes, dont l'allure élégante et énergique correspondait si bien à ce qui m'avait séduit le premier jour où j'avais aperçu Albertine et ses amis que j'emboîtai le pas à ces trois nouvelles jeunes filles. Et, au moment où elles prirent une voiture, j'en cherchais désespérément une autre dans tous les sens. Je la trouvais, mais trop tard. Je ne les rejoignis pas. Mais quelques jours plus tard, comme je rentrais, j'aperçus, sortant de sous la voûte de notre maison, les trois jeunes filles que j'avais suivies au bois. C'étaient tout à fait, les deux brunes surtout, et un peu plus âgées seulement, de ces jeunes filles du monde qui souvent, vues de ma fenêtre ou croisées dans la rue, m'avaient fait faire mille projets, aimer la vie, et que je n'avais pu connaître. La blonde avait un air un peu plus délicat, presque souffrant, qui me plaisait moins. Ce fut pourtant elle qui fut cause que je ne me contentais pas de le considérer un instant, mais qu'ayant pris racine, je les contemplais avec ces regards qui, par leur fixité impossible à distraire, leur application comme à un problème, semblent avoir conscience qu'il s'agit d'aller bien au-delà de ce qu'on voit. Je les aurais sans doute laissés disparaître comme tant d'autres, si, au moment où elles passèrent devant moi, la blonde, était-ce parce que je les contemplais avec cette attention, ne m'eût lancé furtivement un premier regard. Puis, m'ayant dépassé et retournant la tête vers moi, un second qui acheva de m'enflammer. Cependant, comme elle cessa de s'occuper de moi et se remit à causer avec ses amis, mon ardeur eut sans doute fini par tomber, si elle n'avait été centuplée par le fait suivant. Ayant demandé au concierge qui elles étaient, « Elles ont demandé Madame la Duchesse, » me dit-il. « Je crois qu'il n'y en a qu'une qui la connaisse et que les autres l'avaient seulement accompagnée jusqu'à la porte. Voici le nom, je ne sais pas si j'ai bien écrit. » Et je lus « Mademoiselle Desporcheville », que je rétablis aisément « Desporcheville », c'est-à-dire le nom ou à peu près, autant que je me souvenais, de la jeune fille d'excellente famille et apparentée vaguement aux Guermantes dont Robert m'avait parlé pour l'avoir rencontrée dans une maison de passe et avec laquelle il avait eu des relations. Je comprenais maintenant la signification de son regard, pourquoi elle s'était retournée et cachée de ses compagnes. Que de fois j'avais pensé à elle, me l'imaginant d'après le nom que m'avait dit Robert. Et voici que je venais de la voir, nullement différente de ses amis, sauf par ce regard dissimulé qui ménageait entre moi et elle une entrée secrète dans des parties de sa vie, qui, évidemment, étaient cachées à ses amis, et qui me la faisait paraître plus accessible, presque à demi mienne, plus douce que ne sont d'habitude les jeunes filles de l'aristocratie. Dans l'esprit de celle-ci, entre elle et moi, il y avait d'avance de commun les heures que nous aurions pu passer ensemble si elle avait la liberté de me donner un rendez-vous. N'était-ce pas ce que son regard avait voulu m'exprimer avec une éloquence qui ne fut claire que pour moi? Mon cœur battait de toutes ses forces. Je n'aurais pas pu dire exactement comment était faite Mademoiselle Desporcheville. Je revoyais vaguement un blond visage aperçu de côté, mais j'étais amoureux fou d'elle. Tout d'un coup, je m'avisais que je raisonnais comme si, entre les trois, Mademoiselle Desporcheville était précisément la blonde qui s'était retournée et m'avait regardée deux fois. Or, le concierge ne me l'avait pas dit. Je revins à sa loge, l'interrogeai à nouveau. Il me dit qu'il ne pouvait me renseigner là-dessus, mais qu'il allait le demander à sa femme, qui les avait déjà vues une autre fois. Elle était en train de faire l'escalier de service. Qui n'a eu, au cours de sa vie, de ces incertitudes plus ou moins semblables à celles-là et délicieuses? Un ami charitable, à qui on a décrit une jeune fille qu'on a vue au bal, en conclut qu'elle devait être une de ses amies et vous invite avec elle. Mais, entre tant d'autres, et sur un simple portrait parlé, n'y aurait-il pas eu d'erreur commise? La jeune fille que vous allez voir tout à l'heure, ne sera-t-elle pas une autre que celle que vous désirez? Ou, au contraire, n'allez-vous pas voir vous tendre la main en souriant précisément celle que vous souhaitiez qu'elle fût? Ce dernier cas, assez fréquent, sans être justifié toujours par un raisonnement aussi probant que celui qui concernait Mademoiselle Desporcheville, résulte d'une sorte d'intuition, et aussi de ce souffle de chance qui parfois nous favorise. Alors, en la voyant, nous nous disons « c'était bien elle ». Je me rappelle que, dans la petite bande de jeunes filles se promenant au bord de la mer, j'avais deviné juste celle qui s'appelait Albertine Simonet. Ce souvenir me causa une douleur aiguë, mais brève, et tandis que le concierge cherchait sa femme, Je songeais surtout, pensant à Mademoiselle des Porcheville, et comme dans ces minutes d'attente, où un nom, un renseignement qu'on a, on ne sait pourquoi, adapté à un visage, se trouve un instant libre et flotte, prêt, s'il adhère à un nouveau visage, à rendre rétrospectivement le premier sur lequel il vous avait renseigné, inconnu, innocent, insaisissable. Que la concierge allait peut-être m'apprendre que Mademoiselle des Porcheville était au contraire une des deux brunes. Dans ce cas, s'évanouissait l'être à l'existence duquel je croyais, que j'aimais déjà, que je ne songeais plus qu'à posséder. Cette blonde et sournoise Mademoiselle des Porcheville, que la fatale réponse allait alors dissocier en deux éléments distincts, que j'avais arbitrairement unis à la façon d'un romancier, qui font ensemble divers éléments empruntés à la réalité pour créer un personnage imaginaire, et qui, pris chacun à part, le nom ne corroborant pas l'intention du regard, perdait toute signification. Dans ce cas, mes arguments se trouvaient détruits. Mais combien ils se trouvèrent au contraire fortifiés quand le concierge revint me dire que Mademoiselle des Porcheville était bien la blonde. Dès lors, je ne pouvais plus croire à une homonymie. Le hasard eût été trop grand que sur ces trois jeunes filles, l'une s'appela Mademoiselle des Porcheville. Que ce fût justement, ce qui était la première vérification typique de ma supposition, celle qui m'avait regardé de cette façon, presque en me souriant, et que ce ne fût pas celle qui allait dans les maisons de passe. Alors commença une journée d'une folle agitation. Avant même de partir acheter tout ce que je croyais propre à me parer pour produire une meilleure impression, quand j'irai voir Madame de Guermantes le surlendemain, jour où la jeune fille devait, m'avait dit le concierge, revenir voir la duchesse, chez qui je trouverais ainsi une jeune fille facile et prendrais rendez-vous avec elle, car je trouverais bien le moyen de l'entretenir un instant dans un coin du salon. J'allais, pour plus de sûreté, télégraphier à Robert pour lui demander le nom exact et la description de la jeune fille, espérant avoir sa réponse avant le surlendemain. Je ne pensais pas une seconde à autre chose, même pas à Albertine. Décidé, quoi qu'il pût m'arriver d'ici là, dussé-je m'y faire descendre en chaise à porteur si j'étais malade, à faire une visite prolongée à la duchesse. Si je télégraphiais à Saint-Loup, ce n'est pas qu'il me restât des doutes sur l'identité de la personne, et que la jeune fille vue et celle dont il m'avait parlé fussent encore distinctes pour moi. Je ne doutais pas qu'elles n'en fissent qu'une seule. Mais dans mon impatience d'attendre le surlendemain, il m'était doux, c'était déjà pour moi comme un pouvoir secret sur elle, de recevoir une dépêche la concernant, pleine de détails. Au télégraphe, tout en rédigeant ma dépêche avec l'animation de l'homme qu'échauffe l'espérance, je remarquai combien j'étais moins désarmé maintenant que dans mon enfance, et vis-à-vis de Mademoiselle des Porcheville que de Gilberte. À partir du moment où j'avais pris seulement la peine d'écrire ma dépêche, l'employé n'avait plus qu'à la prendre, les réseaux les plus rapides de communication électrique à la transmettre à l'étendue de la France et de la Méditerranée, et tout le passé noceur de Robert allait être appliqué à identifier la personne que je venais de rencontrer, se trouver au service du roman que je venais d'ébaucher et auquel je n'avais même plus besoin de penser, car la réponse allait se charger de le conclure avant que 24 heures fussent accomplies. Tandis qu'autrefois, ramené des Champs-Élysées par Françoise, nourrissant seul à la maison d'impuissants désirs, ne pouvant user des moyens pratiques de la civilisation, j'aimais comme un sauvage, ou même, car je n'avais pas la liberté de bouger, comme une fleur. À partir de ce moment, mon temps se passa dans la fièvre. Une absence de 48 heures que mon père me demanda de faire avec lui et qui m'eût fait manquer la visite chez la duchesse me mit dans une rage et un désespoir tels que ma mère s'interposa et obtint de mon père de me laisser à Paris. Mais pendant plusieurs heures, ma colère ne put s'apaiser, tandis que mon désir de Mademoiselle d'Eporcheville avait été centuplé par l'obstacle qu'on avait mis entre nous, par la crainte que j'avais eue un instant que ces heures, auxquelles je souriais d'avance sans trêve, de ma visite chez Madame de Guermantes, comme un bien certain que nul ne pourrait m'enlever, n'eussent pas lieu. Certains philosophes disent que le monde extérieur n'existe pas et que c'est en nous-mêmes que nous développons notre vie. Quoi qu'il en soit, l'amour, même en ses plus humbles commencements, est un exemple frappant du peu qu'est la réalité pour nous. M'eût-il fallu dessiner de mémoire un portrait de Mademoiselle d'Eporcheville, donner sa description, son signalement, cela m'eût été impossible. Je l'avais aperçue de profil, bougeante, elle m'avait semblé jolie, simple, grande et blonde, je n'aurais pas pu en dire davantage. Mais toutes les réactions du désir, de l'anxiété, du coup mortel frappé par la peur de ne pas la voir si mon père m'emmenait, tout cela, associé à une image qu'en somme je ne connaissais pas et dont il suffisait que je la susse agréable, constituait déjà un amour. Enfin, le lendemain matin, après une nuit d'insomnie heureuse, je reçus la dépêche de Saint-Loup. De l'Orgeville, de particules, Orge la graminée, comme du seigle, ville comme une ville, petite, brune, boulotte, est en ce moment en Suisse. Ce n'était pas celle. Un instant avant que Françoise m'apportât la dépêche, ma mère était entrée dans ma chambre avec le courrier, l'avait posée sur mon lit avec négligence, en ayant l'air de penser à autre chose. Et se retirant aussitôt pour me laisser seule, elle avait souri en partant. Et moi, connaissant les ruses de ma chère maman, et sachant qu'on pouvait toujours lire dans son visage sans crainte de se tromper, si l'on prenait comme clé le désir de faire plaisir aux autres, je souris et pensais « Il y a quelque chose d'intéressant pour moi dans le courrier, et maman a affecté cet air indifférent et distrait pour que ma surprise soit complète et pour ne pas faire comme les gens qui vous ôtent la moitié de votre plaisir en vous l'annonçant. Et elle n'est pas restée là parce qu'elle a craint que par amour propre je dissimule le plaisir que j'aurai et ainsi le ressente moins vivement. » Cependant, en allant vers la porte pour sortir, elle avait rencontré Françoise qui entrait chez moi la dépêche à la main. Dès qu'elle me l'eut donnée, ma mère avait forcé Françoise à rebrousser chemin et l'avait entraînée dehors, effarouchée, offensée et surprise. Car Françoise considérait que sa charge comportait le privilège de pénétrer à toute heure dans ma chambre et d'y rester s'il lui plaisait. Mais déjà, sur son visage, l'étonnement et la colère avaient disparu sous le sourire noirâtre et gluant d'une pitié transcendante et d'une ironie philosophique. Liqueur visqueuse que secrétait, pour guérir sa blessure, son amour-propre lésé. Pour ne pas se sentir méprisée, elle nous méprisait. Aussi bien pensait-elle que nous étions des maîtres, c'est-à-dire des êtres capricieux, qui ne brillent pas par l'intelligence et qui trouvent leur plaisir à imposer par la peur à des personnes spirituelles, à des domestiques, pour bien montrer qu'ils sont les maîtres, des devoirs absurdes, comme de faire bouillir l'eau en temps d'épidémie, de balayer ma chambre avec un linge mouillé et d'en sortir au moment où on avait justement l'intention d'y rester. Maman avait posé le courrier tout près de moi pour qu'il ne pût pas m'échapper. Mais je sentis que ce n'était que des journaux. Sans doute, y avait-il quelque article d'un écrivain que j'aimais, et qui, écrivant rarement, serait pour moi une surprise. J'allai à la fenêtre, j'écartai les rideaux. Au-dessus du jour blême et brumeux, le ciel était tout rose, comme, à cette heure, dans les cuisines, les fourneaux qu'on allume. Et cette vue me remplit d'espérance et du désir de passer la nuit et de m'éveiller à la petite station campagnarde où j'avais vu la laitière au jour rose. Pendant ce temps-là, j'entendais Françoise qui, indignée qu'on l'eût chassée de ma chambre où elle considérait qu'elle avait ses grandes entrées, grommelait. « Si c'est pas malheureux, un enfant qu'on a vu naître. Je ne l'ai pas vu quand sa mère le faisait, bien sûr, mais quand je l'ai connu, pour bien dire, il n'y avait pas 5 ans qu'il était naquis. » J'ouvris le Figaro. Quel ennui! Justement, le premier article avait le même titre que celui que j'avais envoyé et qui n'avait pas paru. Mais pas seulement le même titre. Voici quelques mots absolument pareils. Cela, c'était trop fort. J'enverrais une protestation. Mais ce n'était pas que quelques mots. C'était tout. C'était ma signature. C'était mon article qui avait enfin paru. Mais ma pensée, qui, déjà à cette époque, avait commencé à vieillir et à se fatiguer un peu, continua un instant encore à raisonner comme si elle n'avait pas compris que c'était mon article. Comme ces vieillards qui sont obligés de terminer jusqu'au bout un mouvement commencé, même s'il est devenu inutile, même si un obstacle imprévu devant lequel il faudrait se retirer immédiatement le rend dangereux. Puis, je considérai le pain spirituel, qu'est un journal encore chaud et humide de la presse récente, dans le brouillard du matin où on le distribue, dès l'aurore, aux bonnes qui l'apportent à leur maître avec le café au lait, pain miraculeux, multipliable, qui est à la fois 1 et 10 000, qui reste le même pour chacun, tout en pénétrant innombrable, à la fois dans toutes les maisons. Ce que je tenais en main, ce n'est pas un certain exemplaire du journal, c'est l'un quelconque des 10 000. Ce n'est pas seulement ce qui a été écrit pour moi, c'est ce qui a été écrit pour moi et pour tous. Pour apprécier exactement le phénomène qui se produit en ce moment dans les autres maisons, il faut que je lise cet article, non en auteur, mais comme un des autres lecteurs du journal. Car ce que je tenais en main n'était pas seulement ce que j'avais écrit, mais était le symbole de l'incarnation dans ton esprit. Aussi, pour le lire, fallait-il que je cessasse un moment d'en être l'auteur, que je fusse l'un quelconque des lecteurs du Figaro. Mais d'abord, une première inquiétude. Le lecteur non prévenu, verrait-il cet article ? Je déplie distraitement le journal comme ferait ce lecteur non prévenu, ayant même sur ma figure l'air d'ignorer ce qu'il y a ce matin dans mon journal et d'avoir hâte de regarder les nouvelles mondaines et la politique. Mais mon article est si long que mon regard, qui l'évite, pour rester dans la vérité et ne pas mettre la chance de mon côté, comme quelqu'un qui attend compte trop lentement exprès, en accroche un morceau au passage. Mais beaucoup de ceux qui aperçoivent le premier article et même qui le lisent ne regardent pas la signature. Moi-même, je serais bien incapable de dire de qui était le premier article de la veille. Et je me promets maintenant de les lire toujours et le nom de leur auteur. Mais comme un amant jaloux qui ne trompe pas sa maîtresse pour croire à sa fidélité. Je songe tristement que mon attention future ne forcera pas en retour celle des autres. Et puis, il y a ceux qui vont partir pour la chasse, ceux qui sont sortis brusquement de chez eux. Enfin, quelques-uns tout de même le liront. Je fais comme cela. Je commence. J'ai beau savoir que bien des gens qui liront cet article le trouveront détestable, au moment où je lis, Ce que je vois dans chaque mot me semble être sur le papier. Je ne peux pas croire que chaque personne, en ouvrant les yeux, ne verra pas directement les images que je vois. Croyant que la pensée de l'auteur est directement perçue par le lecteur, tandis que c'est une autre pensée qui se fabrique dans son esprit, avec la même naïveté que ceux qui croient que c'est la parole même qu'on a prononcée qui chemine telle qu'elle le long des fils du téléphone. Au moment même où je veux être un lecteur, mon esprit refait en auteur le travail de ceux qui liront mon article. Si M. de Guermantes ne comprenait pas telle phrase que Bloch aimerait, en revanche, il pourrait s'amuser de telles réflexions que Bloch dédaignerait. Ainsi, pour chaque partie que le lecteur précédent semblait délaisser, un nouvel amateur se présentant, l'ensemble de l'article se trouvait élevé au nu par une foule et s'imposait ainsi à ma propre défiance de moi-même, qui n'avait plus besoin de le détruire. C'est qu'en réalité, il en est de la valeur d'un article, si remarquable qu'il puisse être, comme de ces phrases des comptes rendus de la chambre où les mots « nous verrons bien » prononcés par le ministre ne prennent toute leur importance qu'encadrés ainsi. Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes. Nous verrons bien. Vives exclamations à l'extrême gauche. Très bien, sur quelques bancs à gauche et au centre. La plus grande partie de leur beauté réside dans l'esprit des lecteurs. Et c'est la tare originelle de ce genre de littérature, dont ne sont pas exceptés les célèbres lundis, que leur valeur réside dans l'impression qu'elle produit sur les lecteurs. C'est une Vénus collective, dont on n'a qu'un membre mutilé si l'on s'en tient à la pensée de l'auteur, car elle ne se réalise complète que dans l'esprit de ses lecteurs. En eux, elle s'achève. Et comme une foule, fût-elle une élite, n'est pas artiste, ce cachet dernier qu'elle lui donne garde toujours quelque chose d'un peu commun. Ainsi Sainte-Beuve, le lundi, pouvait se représenter Madame de Boigne dans son lit à 8 colonnes, lisant son article du Constitutionnel, appréciant telle jolie pensée dans laquelle il s'était longtemps complu, et qui ne serait peut-être jamais sorti de lui s'il n'avait jugé à propos d'en bourrer son feuilleton pour que le coup emportât plus loin. Sans doute le chancelier, le lisant de son côté, en parlerait à sa vieille amie dans la visite qu'il lui ferait un peu plus tard. Et en l'emmenant ce soir dans sa voiture, le duc de Noailles, en pantalon gris, lui dirait ce qu'on en avait pensé dans la société, si un mot de Madame d'Herbouville ne lui avait déjà appris. Je voyais ainsi, à cette même heure, pour tant de gens, ma pensée, ou même à défaut de ma pensée, pour ceux qui ne pouvaient la comprendre, la répétition de mon nom, et comme une évocation embellie de ma personne, briller sur eux, en une aurore qui me remplissait de plus de force et de joie triomphante que l'aurore innombrable qui en même temps se montrait rose à toutes les fenêtres. Je voyais Bloch, M. de Guermantes, le Grandin, tirer chacun à son tour de chaque phrase les images qu'il y enferme. Au moment même où j'essaie d'être un lecteur quelconque, je lis en auteur, mais pas en auteur seulement. Pour que l'être impossible que j'essaie d'être réunisse tous les contraires qui peuvent m'être le plus favorable, si je lis en auteur, je me juge en lecteur, sans aucune des exigences que peut avoir pour un écrit celui qui y confronte l'idéal qu'il a voulu y exprimer. Ces phrases de mon article, lorsque je les écrivis, étaient si pâles auprès de ma pensée, si compliquées et opaques auprès de ma vision harmonieuse et transparente, si pleines de lacunes que je n'étais pas arrivée à remplir, que leur lecture était pour moi une souffrance, Elle n'avait fait qu'accentuer en moi le sentiment de mon impuissance et de mon manque incurable de talent. Mais maintenant, en m'efforçant d'être lecteur, si je me déchargeais sur les autres du devoir douloureux de me juger, je réussissais du moins à faire table rase de ce que j'avais voulu faire en lisant ce que j'avais fait. Je lisais l'article en m'efforçant de me persuader qu'il était d'un autre. Alors, toutes mes images, toutes mes réflexions, toutes mes épithètes prises en elles-mêmes et sans le souvenir de l'échec qu'elles représentaient pour mes visées, me charmaient par leur éclat, leur ampleur, leur profondeur. Et quand je sentais une défaillance trop grande, me réfugiant dans l'âme du lecteur quelconque émerveillé, je me disais « Bah, comment un lecteur peut-il s'apercevoir de cela ? Il manque quelque chose là, c'est possible. Mais sapristi, s'ils ne sont pas contents, il y a assez de jolies choses comme cela, plus qu'ils n'en ont d'habitude. » Et m'appuyant sur ces 10 000 approbations qui me soutenaient, je puisais autant de sentiments de ma force et d'espoir de talent dans la lecture que je faisais à ce moment que j'y avais puisé de défiance quand ce que j'avais écrit ne s'adressait qu'à moi. À peine eus-je fini cette lecture réconfortante que moi, qui n'avais pas eu le courage de relire mon manuscrit, je souhaitais de la recommencer immédiatement. Car il n'y a rien comme un vieil article de soi dont on puisse dire que, quand on l'a lu, on peut le relire. Je me promis d'en faire acheter d'autres exemplaires par Françoise pour donner à des amis, lui dirai-je, en réalité pour toucher du doigt le miracle de la multiplication de ma pensée, et lire comme si j'étais un autre monsieur qui vient d'ouvrir le Figaro, dans un autre numéro, les mêmes phrases. Il y avait justement un temps infini que je n'avais vu les Guermantes. Je devais leur faire, le lendemain, cette visite que j'avais projetée avec tant d'agitation afin de rencontrer Mademoiselle des Porcheville. Lorsque je télégraphiais à Saint-Loup, je me rendrai compte par eux de l'opinion qu'on avait de mon article. Je pensais à telle lectrice dans la chambre de qui j'eusse tant aimé pénétrer, et à qui le journal apporterait, sinon ma pensée, qu'elle ne pourrait comprendre, du moins mon nom, comme une louange de moi. Mais les louanges décernées à ceux qu'on n'aime pas n'enchantent pas plus le cœur que les pensées d'un esprit qu'on ne peut pénétrer n'atteignent l'esprit. Pour d'autres amis, je me disais que, si l'état de ma santé continuait à s'aggraver, et si je ne pouvais plus les voir, il serait agréable de continuer à écrire pour avoir encore par là accès auprès d'eux, pour leur parler entre les lignes, les faire penser à mon gré, leur plaire, être reçu dans leur cœur. Je me disais cela parce que, les relations mondaines ayant eu jusqu'ici une place dans ma vie quotidienne, un avenir où elles ne figureraient plus m'effrayait, et que cet expédient qui me permettrait de retenir sur moi l'attention de mes amis, peut-être d'exciter leur admiration, jusqu'au jour où je serais assez bien pour recommencer à les voir, me consolait. Je me disais cela, mais je sentais bien que ce n'était pas vrai. Que si j'aimais à me figurer leur attention comme l'objet de mon plaisir, ce plaisir était un plaisir intérieur, spirituel, ultime, que ne pouvaient me donner, et que je pouvais trouver, non en causant avec eux, mais en écrivant loin d'eux, et que si je commençais à écrire pour les voir indirectement, pour qu'ils eussent une meilleure idée de moi, pour me préparer une meilleure situation dans le monde, peut-être écrire m'ôterait l'envie de les voir, et que la situation que la littérature m'aurait peut-être faite dans le monde, je n'aurais plus envie d'en jouir, car mon plaisir ne serait plus dans le monde, mais dans la littérature. Après le déjeuner, quand j'allais chez Madame de Guermantes, Ce fut moins pour Mademoiselle des Porcheville, qui avait perdu, du fait de la dépêche de Saint-Loup, le meilleur de sa personnalité, que pour voir en la duchesse elle-même une de ces lectrices de mon article qui pourrait me permettre d'imaginer ce qu'avait pu penser le public, abonnés et acheteurs du Figaro. Ce n'est pas du reste sans plaisir que j'allais chez Madame de Guermantes. J'avais beau me dire que ce qui différenciait pour moi ce salon des autres, c'était le long stage qu'il avait fait dans mon imagination, en connaissant les causes de cette différence, je ne l'abolissais pas. Il existait d'ailleurs, pour moi, plusieurs noms de Guermantes. Si celui que ma mémoire n'avait inscrit que comme dans un livre d'adresse ne s'accompagnait d'aucune poésie, de plus anciens, ceux qui remontaient au temps où je ne connaissais pas Madame de Guermantes, étaient susceptibles de se reformer en moi, surtout quand il y avait longtemps que je ne l'avais vue, et que la clarté crue de la personne au visage humain n'éteignait pas les rayons mystérieux du nom. Alors, de nouveau, je me remettais à penser à la demeure de Madame de Guermantes comme à quelque chose qui eût été au-delà du réel, de la même façon que je me remettais à penser au Balbec brumeux de mes premiers rêves. Et, comme si depuis je n'avais pas fait ce voyage, au train de 1h50, comme si je ne l'avais pas pris. J'oubliais un instant la connaissance que j'avais que tout cela n'existait pas, comme on pense quelquefois à un être aimé en oubliant pendant un instant qu'il est mort. Puis, l'idée de la réalité revint en entrant dans l'antichambre de la duchesse. Mais je me consolais en me disant qu'elle était malgré tout, pour moi, le véritable point d'intersection entre la réalité et le rêve. En entrant dans le salon, je vis la jeune fille blonde que j'avais cru, pendant 24 heures, être celle dont Saint-Loup m'avait parlé. Ce fut elle-même qui demanda à la duchesse de me représenter à elle. Et en effet, depuis que j'étais rentrée, j'avais une impression de très bien la connaître, mais que dissipa la duchesse en me disant « Ah, vous avez déjà rencontré Mademoiselle de Forcheville ?» Or, au contraire, j'étais certain de n'avoir jamais été présenté à aucune jeune fille de ce nom, lequel m'eût certainement frappé, tant il était familier à ma mémoire depuis qu'on m'avait fait un récit rétrospectif des amours d'Odette et de la jalousie de Swann. En soi, ma double erreur de nom, de m'être rappelé de Lorgeville comme étant des Porcheville et d'avoir reconstitué en Éporcheville ce qui était en réalité Forcheville, n'avait rien d'extraordinaire. Notre tort est de croire que les choses se présentent habituellement telles qu'elles sont en réalité, les noms tels qu'ils sont écrits, les gens tels que la photographie et la psychologie donnent d'eux une notion immobile. En fait, ce n'est pas du tout cela que nous percevons d'habitude. Nous voyons, nous entendons, nous concevons le monde, tout de travers. Nous répétons un nom tel que nous l'avons entendu jusqu'à ce que l'expérience ait rectifié notre erreur, ce qui n'arrive pas toujours. Tout le monde à Combray parla pendant 25 ans à Françoise de Madame Sazerat, et Françoise continua à dire Madame Sazerin, non par cette volontaire et orgueilleuse persévérance dans ses erreurs, qui était habituelle chez elle, se renforçait de notre contradiction et était tout ce qu'elle avait ajouté chez elle à la France de Saint-André-des-Champs. Des principes égalitaires de 1789, elle ne réclamait qu'un droit du citoyen, celui de ne pas prononcer comme nous et de maintenir qu'hôtel, été et air étaient du genre féminin. Mais parce qu'en réalité, elle continua toujours d'entendre Sazerin. Cette perpétuelle erreur, qui est précisément la vie, ne donne pas ses 1000 formes seulement à l'univers visible et à l'univers audible, mais à l'univers social, à l'univers sentimental, à l'univers historique, etc. la princesse de Luxembourg n'a qu'une situation de cocotte pour la femme du premier président, ce qui, du reste, est de peu de conséquences. Ce qui en a un peu plus, Odette est une femme difficile pour Swann, d'où il bâtit tout un roman qui ne devient que plus douloureux quand il comprend son erreur. Ce qui en a encore davantage, les Français ne rêvent que la revanche aux yeux des Allemands. Nous n'avons de l'univers que des visions informes, fragmentées, et que nous complétons par des associations d'idées arbitraires, créatrices de dangereuses suggestions. Je n'aurais donc pas eu lieu d'être étonnée en entendant le nom de Forcheville. Et déjà je me demandais si c'était une parente du Forcheville dont j'avais tant entendu parler. Si la jeune fille blonde ne m'avait dit aussitôt, désireuse sans doute de prévenir avec tact des questions qui lui eussent été désagréables. « Vous ne vous souvenez pas que vous m'avez beaucoup connue autrefois? Vous veniez à la maison. Votre amie Gilberte. J'ai bien vu que vous ne me reconnaissiez pas. Moi, je vous ai bien reconnue tout de suite. » Elle dit cela comme si elle m'avait reconnue tout de suite dans le salon. Mais la vérité est qu'elle m'avait reconnue dans la rue et m'avait dit « bonjour ». Et plus tard, Madame de Guermantes me dit qu'elle lui avait raconté comme une chose très drôle et extraordinaire que je l'avais suivie et frôlée, la prenant pour une cocotte. Je ne sus qu'après son départ pourquoi elle s'appelait Mademoiselle de Forcheville. Après la mort de Swann, Odette, qui étonna tout le monde par une douleur profonde, prolongée et sincère, se trouvait être une veuve très riche. Forcheville l'épousa, après avoir entrepris une longue tournée de château et s'être assuré que sa famille recevrait sa femme. Cette famille fit quelques difficultés, mais céda devant l'intérêt de ne plus avoir à subvenir aux dépenses d'un parent besogneux qui allait passer d'une quasi-misère à l'opulence. Peu après, un oncle de Swann, sur la tête duquel la disparition successive de nombreux parents avait accumulé un énorme héritage, mourut, laissant toute cette fortune à Gilberte, qui devenait ainsi une des plus riches héritières de France. Mais c'était le moment où, des suites de l'affaire Dreyfus, était né un mouvement antisémite, parallèle à un mouvement plus abondant de pénétration du monde par les Israélites. Les politiciens n'avaient pas eu tort en pensant que la découverte de l'erreur judiciaire porterait un coup à l'antisémitisme. Mais, provisoirement au moins, un antisémitisme mondain s'en trouvait au contraire accru et exaspéré. Forcheville, qui, comme le moindre noble, avait puisé dans des conversations de famille la certitude que son nom était plus ancien que celui de La Rochefoucauld, considérait qu'en épousant la veuve d'un juif, il avait accompli le même acte de charité qu'un millionnaire qui ramasse une prostituée dans la rue et la tire de la misère et de la fange. Il était prêt à étendre sa bonté jusqu'à la personne de Gilberte, dont tant de millions aideraient, mais dont cet absurde nom de Swann gênerait le mariage. Il déclara qu'il l'adoptait. On sait que Madame de Guermantes, à l'étonnement, qu'elle avait d'ailleurs le goût et l'habitude de provoquer, de sa société, c'était, quand Swann s'était marié, refuser à recevoir sa fille aussi bien que sa femme. Ce refus avait été en apparence d'autant plus cruel que ce qu'avait pendant longtemps représenté à Swann son mariage possible avec Odette, c'était la présentation de sa fille à Madame de Guermantes. Et sans doute, il eût dû savoir, lui qui avait déjà tant vécu, que ces tableaux qu'on se fait ne se réalisent jamais pour différentes raisons. Parmi celles-là, il en est une qui fit qu'il pensa peu à regretter cette présentation. Cette raison est que, quelle que soit l'image, depuis la truite à manger au coucher du soleil qui décide un homme sédentaire à prendre le train jusqu'au désir de pouvoir étonner un soir une orgueilleuse caissière en s'arrêtant devant elle en somptueux équipage, qui décide un homme sans scrupule à commettre un assassinat ou à souhaiter la mort et l'héritage des siens, selon qu'il est plus brave ou plus paresseux, qu'il va plus loin dans la suite de ses idées ou reste à en caresser le premier chaînon. L'acte qui est destiné à nous permettre d'atteindre l'image, que cet acte soit le voyage, le mariage, le crime, cet acte nous modifie assez profondément pour que nous n'attachions plus d'importance à la raison qui nous a fait l'accomplir. Il se peut même que ne vienne plus une seule fois à son esprit l'image que se formait celui qui n'était pas encore un voyageur, ou un mari, ou un criminel, ou un isolé, qui s'est mis au travail pour la gloire et s'est du même coup détaché du désir de la gloire. D'ailleurs, missions-nous de l'obstination à ne pas avoir voulu agir en vain. Il est probable que l'effet de soleil ne se retrouverait pas. Qu'ayant froid à ce moment-là, nous souhaiterions un potage au coin du feu et non une truite en plein air. Que notre équipage laisserait indifférente la caissière qui, peut-être, avait, pour des raisons tout autres, une grande considération pour nous et dont cette brusque richesse exciterait la méfiance. Bref, nous avons vu Swann marié, attaché surtout de l'importance aux relations de sa femme et de sa fille avec Madame Bontemps. À toutes les raisons, tirées de la façon guermante de comprendre la vie mondaine, qui avait décidé la duchesse à ne jamais se laisser présenter Madame et Mademoiselle Swann, on peut ajouter aussi cette assurance heureuse avec laquelle les gens, qui n'aiment pas, se tiennent à l'écart de ce qu'ils blâment chez les amoureux, et que l'amour de ceux-ci explique. Oh, je ne me mêle pas à tout ça. Si ça amuse le pauvre Swann de faire des bêtises et de ruiner son existence, c'est son affaire. Mais on ne sait pas avec ces choses-là. Tout ça peut très mal finir. Je les laisse se débrouiller. C'est le suave Marie Magnot que Swann lui-même me conseillait à l'égard des Verdurin, quand il avait depuis longtemps cessé d'être amoureux d'Odette et ne tenait plus au petit clan. C'est tout ce qui rend si sages les jugements des tiers sur les passions qu'ils n'éprouvent pas et les complications de conduite qu'elles entraînent. Madame de Guermantes avait même mis à exclure Madame et Mademoiselle Swann une persévérance qui avait étonné. Quand Madame Mollet, Madame de Marsante, avait commencé de se lier avec Madame Swann et de mener chez elle un grand nombre de femmes du monde, non seulement Madame de Guermantes était restée intraitable, mais elle s'était arrangée pour couper les ponts et que sa cousine, la princesse de Guermantes, l'imita. Un des jours les plus graves de la crise, où, pendant le ministère Rouvier, on crut qu'il allait y avoir la guerre entre la France et l'Allemagne, comme je dînais seule chez Madame de Guermantes avec Monsieur de Bréauté, j'avais trouvé à la duchesse l'air soucieux. J'avais cru, comme elle se mêlait volontiers de politique, qu'elle voulait montrer par là sa crainte de la guerre, comme un jour où elle était venue à table si soucieuse, répondant à peine par monosyllabes. À quelqu'un qui l'interrogeait timidement sur l'objet de son souci, elle avait répondu d'un air grave « La Chine m'inquiète ». Or, au bout d'un moment, Madame de Guermantes, expliquant elle-même l'air soucieux que j'avais attribué à la crainte d'une déclaration de guerre, avait dit à Monsieur de Bréauté « On dit que Madame Hénard veut faire une position aux Swann. Il faut absolument que j'aille demain matin voir Marie Gilbert pour qu'elle m'aide à empêcher ça. Sans cela, il n'y a plus de société. C'est très joli, l'affaire Dreyfus. Mais alors, l'épicière du coin n'a qu'à se dire nationaliste et à vouloir en échange être reçue chez nous. » Et j'avais eu de ce propos, si frivole auprès de celui que j'attendais, l'étonnement du lecteur qui, cherchant dans le Figaro, à la place habituelle, les dernières nouvelles de la guerre russo-japonaise, tombe, au lieu de cela, sur la liste des personnes qui ont fait des cadeaux de noces à Mademoiselle de Mortemart. l'importance d'un mariage aristocratique ayant fait reculer à la fin du journal les batailles sur terre et sur mer. La duchesse finissait d'ailleurs par éprouver, de sa persévérance poursuivie au-delà de toute mesure, une satisfaction d'orgueil qu'elle ne manquait pas une occasion d'exprimer. « Bébelle, disait-elle, prétend que nous sommes les deux personnes les plus élégantes de Paris, parce qu'il n'y a que moi et lui qui ne nous laissions pas saluer par Madame et Mademoiselle Swann. Or, il assure que l'élégance est de ne pas connaître Madame Swann. » Et la duchesse riait de tout son cœur.